prenons ce texte, nous trouvons dans Marc 10, il y a cette question, verset 51, le contexte, c'est cet homme, Bartimée, et on l'a nommé l'aveugle de Jéricho, vous rendez compte le titre? On aurait préféré un autre titre, la souffrance est déjà tellement grande qu'on va l'appeler l'aveugle de Jéricho. Bien sûr, c'est ce titre dans nos Bibles, il n'y a pas ce titre dans les textes originaux, en tout cas les manuscrits que nous avons, et nous avons intitulé simplement « L'aveugle de Jéricho ». Et voilà qu'ils arrivent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, non seulement aveugle, mais sa souffrance l'a rendu mendiant. On le prénomme quand même Bartimée, heureusement. Fils de Timée, bien sûr, Bartimée, fils de Timée. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Aveugle, mais encore la parole. Aveugle, mais encore l'énergie, encore la détermination de ne pas laisser passer un jour de plus sans que quelque chose ne se passe dans sa vie. Où en es-tu aujourd'hui avec Jésus? Peut-être que Jésus passe dans ta vie. Peut-être que tu sais que Jésus est en train de passer. Est-ce que tu vas saisir cette occasion comme Bartimée de crier à lui, de reconnaître ta misère et de crier Jésus, Yeshua, Dieu Sauveur, aie pitié de moi. Plusieurs le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus s'arrêta. Il y a le temps qui s'arrête là. Quand tu cries à Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Et Jésus s'arrête. Dans le mouvement de foule, Jésus s'arrête. Le Seigneur veut s'arrêter pour toi aujourd'hui. Amen. Il est là pour toi, ne perds pas espoir, crie à lui, parce que Jésus, je te garantis, veut s'arrêter. N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? N'est-il pas ce Dieu d'amour? N'est-il pas celui qui connaît tes besoins? N'est-il pas celui, comme le psaume 139 dit, mais avant que la parole soit sur ma bouche, tu la connais, Seigneur. Mais ce que Dieu aime voir, c'est l'élan du cœur. C'est ce cri qui sort du cœur parce que Jésus regarde au cœur, parce que lui a donné son cœur sur la croix. Il sait exactement ce qui se passe dans nos cœurs. Alors Jésus s'arrêta et il prend la parole. Il dit « Appelez-le !» Et ils l'appelèrent. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, prends courage, car je t'appelle. Prends courage, car j'ai des projets pour toi. Prends courage, parce que je ne te laisse pas tomber. Prends courage, parce que je suis l'Éternel qui t'aime. Prends courage et lève-toi de cette position peut-être inconfortable, de cette situation qui t'a fait peut-être t'asseoir, peut-être qui t'a rendu immobile. Tellement t'en peux plus, tellement c'est difficile, et peut-être tellement qu'on a collé cette image de maladie ou de malade sur toi. Prends courage, lève-toi, pas n'importe qui t'appelle, Yeshua, Jésus t'appelle. Et quelle grâce, parce que l'appel de Jésus, si vous regardez dans le texte, est adressé spécifiquement à celui qui l'a appelé. Il va me dire, écoute, c'est une vérité de la palisse là, mais attends. Spécifiquement à cet aveugle, Jésus va l'appeler. Il y a toute la foule qui l'entoure. Et Jésus a cette capacité de discerner le besoin. Amen. Oh, bien sûr, la foule avait besoin, surtout de manger, on le connaît ça. Mais quand il y a le cri d'un cœur, Jésus entend. Et Jésus te dit, prends courage, lève-toi, parce que je t'appelle. Alors l'aveugle jeta son manteau, vous connaissez ce texte, manteau de tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le manteau. Il se lève d'un bond et vint vers Jésus. Vas-tu répondre à l'appel de Jésus? Jésus aurait certainement passé son chemin si l'aveugle ne s'était pas levé. Est-ce que ta maladie, est-ce que ta difficulté va te contraindre à rester assis ou parce que tu l'as appelé et parce que Jésus dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle, je t'appelle, est-ce que tu vas te lever? Quelle décision est-ce que tu prends aujourd'hui? Bartimée a jeté ce manteau. Bartimée, il se lève d'un bond et Bartimée vient vers la vie. On s'arrête un moment là, regardez la scène. Jésus prend la parole et lui dit, et c'est le thème, le titre de mon message aujourd'hui, « Que veux-tu que je fasse ?» La question, « Que veux-tu que je fasse ?» Alors il y a un dialogue qui peut s'engager. « Seigneur, mais tu ne vois pas que je suis aveugle ?»« Seigneur, tu ne vois pas que je suis mendiant ?» Ça se voit pas assez, ma souffrance. C'est impressionnant quand même. Jésus voulait l'entendre. Jésus voulait que Bartimée formule son besoin. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Tu m'as appelé, je suis là, je t'ai appelé, qu'est-ce que tu veux? Rabouni, ce titre honorable, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Là, il y a un rendez-vous avec Dieu. Il y a le respect de deux personnes qui se rencontrent. Il n'y a pas le mépris de celui qui est plus haut face au mendiant aveugle. Quand Jésus pose cette question, il le regarde dans les yeux et il l'accueille comme un face-à-face. Et ça, c'est la rencontre avec Dieu. C'est ta rencontre aujourd'hui avec le Seigneur. Le Seigneur ne se moque pas de toi. Le Seigneur ne te méprise pas. Le Seigneur entend ta voix. Le Seigneur entend ton cri. Le Seigneur voit ta condition. Le Seigneur ne se moque pas, le Seigneur te respecte et c'est pourquoi il pose cette question. On est dans une relation équilibrée là, une relation humaine, pas du tout de mépris, de mobbing, de manipulation, de ce que j'essayais de faire tout à l'heure. Mais Seigneur, ça ne se voit pas? Non. Il y a un respect. J'aurais bien voulu être là pour voir ce moment. J'aurais tellement voulu être là pour voir comment est-ce que Jésus se comportait. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça ne prend pas plus de temps. Parce que l'attitude de Bartimée est tellement dans l'attente de ce que Jésus va faire quelque chose pour lui. Amen. Est-ce que toi, tu es dans cette attente, pas l'attente des pasteurs, pas l'attente des conseillers, bien sûr qu'on peut être là pour vous aider, mais est-ce que tu places tout ton espoir en Jésus? Parce que Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit, et Jésus revient. Ta foi t'a sauvé. Ce que tu engages en criant à Jésus te sauve. De crier à Yeshua, Dieu sauveur, te sauve. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Quand tu rencontres Jésus, tu vas le suivre sur le chemin. Tu te mets en marche avec lui. Sur le chemin pour ne pas être dérouté. Sur le chemin pour rester en chemin avec lui. Parce que c'est lui, ce n'est pas les hommes, mais lui seul qui a pu répondre à son besoin. Les hommes ont essayé de l'empêcher, même les disciples, tout disciple, parce qu'il y avait peut-être le programme de la journée. Et moi j'apprécie beaucoup ces textes. J'aime étudier ces textes, j'aime m'arrêter, je me dis, Seigneur, tu vas toujours à l'essentiel. Mais quel est mon essentiel, moi, par rapport à toi? Comment est-ce que je veux marcher avec toi? Comment est-ce que je m'attends à toi? Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Sinon, je ne suis pas là pour prêcher des balivernes. Est-ce que la parole de Dieu est la vérité? Amen. Est-ce que nous l'intégrons comme vérité? Est-ce que nous la prenons au mot? Il en sera fait selon ta foi. Tout est possible. On l'a entendu tout à l'heure. Tout est possible. Genèse 1. Nous sommes au début, bien entendu, de la révélation. Regardez. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. C'est pas peu, hein? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Là, c'est clair. Homme et femme. Il les créa. Il n'y a pas de confusion, je peux en rajouter. Faites vos déductions au niveau du genre. Pas de confusion. Plus loin, au verset 31, nous sommes le produit de l'amour de Dieu dans sa création, parce que Dieu a créé toute chose avec extraordinaire amour. Verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Tu est le très bon du Seigneur. Tu es l'excellence du Seigneur. En tant que créature de Dieu, tu es l'excellence de Dieu, tu es la cerise sur le gâteau. Comprends-le comme tu veux, c'est absolument extraordinaire. Alléluia! Nous sommes le couronnement de la création de l'Éternel. Amen! Sois fier de cela. Pas étonnant que le diable a voulu tout détruire, bien sûr! Parce que c'est la jalousie du diable qui a voulu conduire à cette tentation et à vouloir faire chuter ce couronnement de la création. Et regardez comment le monde va, le diable s'applique avec ses démons à vouloir détruire l'humanité. Il veut détruire le meilleur de Dieu. Le diable n'a qu'une ambition, c'est de te détruire. Jésus n'a qu'une ambition, c'est de te sauver. Et de te donner la vie en abondance. Tu es, nous sommes, le couronnement de la création de Dieu. Que veux-tu que je te fasse? En tant que le couronnement de ma création, en tant que le bonheur que j'ai eu à te tisser, bien sûr, il a pris cette poussière, le Seigneur, vous connaissez comme ce récit, il l'a pris, il a formé quelque chose de magnifique. Ensuite, il a insufflé son esprit pour que cet être devienne un être, une âme vivante. Et ensuite, par la conception, Dieu a toujours cette même passion de tisser dans le sein des mères ce qui le passionne, la vie, cet être qui va prendre vie et qui l'a sauvé. Alléluia en Jésus. Encore faut-il le choisir, bien sûr. Respectons la vie, respectons ce que Dieu fait, respectons le plan de Dieu. Ne soyons pas des destructeurs de la vie. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout, il a contemplé tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour, c'est ton jour aujourd'hui, amen. Le soleil s'est levé sur ce jour pour toi. Que veux-tu que je te fasse? Exode 34, regarde le Seigneur. Versets 4 à 8. Exode 34, versets 4 à 8. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin, monta sur la montagne de Sinaï. Sur l'ordre que l'Éternel lui avait donné, il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, l'Éternel s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu lent à la colère, Dieu riche en bonté, Dieu riche en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point, bien sûr, le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Il y a une conséquence, bien entendu, au péché. Mais il y a une conséquence aussi à son amour qui va durer jusqu'à mille générations. C'est-à-dire que son amour est conservé jusque dans l'éternité parce que Dieu ne cesse de pardonner. Amen. Que veux-tu que je te fasse, je te rappelle, je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Dieu lent à la colère, Dieu riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Nous sommes à l'entrée du pays promis. Moïse qui arrive à la conclusion de son mandat. Et dans Deutéronome, au chapitre 30, versets 11 et suivants, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Quel commandement ? Verset 6. Je t'en dessus. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. D'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, te projette dans la vie. Ne pas aimer l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, te conduit dans la mort. Ah, on est dans les choses essentielles de nouveau ce matin. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, c'est une opération du cœur de la part du Seigneur, et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Il y a une clé pour la vie, là, dans l'amour que tu témoignes pour le Seigneur. Donc, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces ou de ta portée. Que veux-tu que je te fasse ? Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, à la limite qui nous le fera descendre, on pourrait rajouter, hein, parce qu'on est très très malin, afin que nous le mettions en pratique. Parce que nous, les hommes, on rajoute les sœurs aussi, les femmes, eh bien nous sommes très très, on va dire, organisateurs, très très malins pour trouver des excuses. Que veux-tu que je te fasse ? Et le Seigneur en rajoute, verset 13, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Regardez verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Ce matin, le Seigneur est tout près de toi. Le Seigneur veut te rencontrer là où tu en es, tout près de toi. C'est une question de cœur à cœur. C'est une question de cri du cœur au Seigneur. Ça rime, c'est magnifique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Verset 15, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Ah, ça c'est clair aussi, hein, et c'est encore actuel. « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel... » ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, à commencer par ne pas l'aimer de tout ton cœur, bien sûr, parce que le manque d'amour envers ton Dieu va te conduire dans la détresse et dans quelque chose d'épouvantable. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, si tu te lasses de ton Dieu. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre et entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé. Prends une décision avec le Seigneur. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est étonnant que la parole de Dieu dise, mais choisis la vie, décide-toi. C'est comme si on voulait choisir la mort. Mais on est tellement vite pris dans ces choses que l'Éternel, pour pas qu'on trouve d'excuses, encore te dit, mais choisis la vie, je te donne encore la solution. Je le dis encore ce qu'il faut faire, si tu hésites. Choisis la vie. Et si tu choisis la vie, tu vas vivre, amen. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Parce qu'il y a bien entendu la bénédiction, on l'a vu tout à l'heure, dans Exode 34 qui va jusqu'à la postérité. Afin que tu vives, mais pourquoi ? Mais pour continuer d'aimer l'Éternel. Parce que nous, on est très bons. Hein, on a notre sugus, Mais une fois qu'on l'a, bon, sugus à l'envers, c'est aussi sugus, hein, si vous voulez essayer l'exercice là, sugus, sugus. Mais une fois qu'on a ce qu'on veut, ben, on aurait tendance à oublier, parce que, ouh, super, tout va bien, donc on va oublier l'Éternel. Nous sommes tellement ingrats, moi le premier, Seigneur, pardonne-moi, Père. Tu choisis la vie pour continuer d'aimer l'Éternel, alléluia, parce que tu dois tout, Seigneur, oui. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, parce que l'amour va avec l'obéissance, et l'obéissance va avec l'amour que tu as pour l'Éternel. Et pour t'attacher à lui, c'est quelque chose de fort. Mais c'est Dieu qui veut. Là, c'est pas l'homme qui le demande, c'est l'Éternel qui demande cela de toi. Parce qu'il désire tellement être attaché à toi, alléluia. Tellement être attaché à toi. Tellement être proche de toi. Tellement te porter sur son cœur. Tellement être avec toi. Tellement t'aimer. Alors il demande en retour cet amour merveilleux, décidé, extraordinaire, qui prend des décisions, qui obéit, qui est concret, qui doit se voir. Aujourd'hui, que veux-tu que je te fasse? Regarde la suite, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu n'est pas un Dieu menteur, c'est le Dieu de l'Alliance, c'est le Dieu de tes pères. C'est celui qui a promis à tes pères ce qui va arriver et qui va prolonger dans la postérité ce qu'il a promis, parce que Dieu ne change pas, parce que Dieu n'est pas menteur, parce que Dieu tient ses promesses. Qui sont oui et amen en Christ, amen. Que veux-tu que je te fasse? Psaume 33, vous le connaissez ce psaume 33? Après, on arrivera au psaume 37 qui a été lu par Lauriane. Je ne lui ai pas téléphoné ce matin, je peux vous garantir. Mais je l'avais aussi. Psaume 33. Juste, juste. Je déclare à l'Assemblée juste. Amen. Juste en Christ. Réjouissez-vous en l'Éternel. Car la louange appartient si aux hommes et aux sœurs, aux dames, aux personnes droites. Célébrer l'Éternel avec la harpe, célébrer-le sur le luth à 10 cordes, c'est pour ça qu'on a aussi la louange. Alléluia, merci Seigneur de bénir l'équipe de louange. Merci pour les instruments, merci pour le cortège de louange, Seigneur Jésus. Nous adressons, chantez-lui un cantique nouveau, alléluia, faites retentir vos instruments et vos voix. Pourquoi tout ça? Mais le verset 4 donne la réponse, car la parole de l'Éternel est droite, alléluia. Jamais l'Éternel va te faire un coup fourré, jamais il va te tendre un piège. L'Éternel est droit, ce n'est pas un tordu comme le diable. Le diable tord tout, même la parole de Dieu. La parole de l'Éternel est droite. Ce que tu dis dans la parole de Dieu, c'est établi, alléluia. Par la foi, prends ses promesses, ça me fait du bien aussi ce matin de vous le dire. Je me prêche à moi-même. La parole de l'Éternel est droite et elle le sera jusqu'à la fin. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Ça me fait du bien aussi de le lire avec vous. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Oui, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Le diable voudrait faire croire que non, mais oui, c'est vrai, c'est difficile et je vous épouvantable. Mais il y a toujours la bonté de l'Éternel qui remplit toute la terre. Amen. Il faut que nous le disions. Il faut que l'Église répète cela. Amen. Il faut que le peuple de Dieu répète que la bonté de l'Éternel remplit toute la terre. On ne va pas se laisser avoir par les aveuglements ou plutôt tout ce que le diable voudrait nous faire croire. Il y a encore des choses bonnes qui se passent sur la terre, amen, parce que la bonté de l'Éternel remplit la terre, alléluia. Sinon, il n'y a plus que la parole qui va le dire. Et nous, on est des missionnaires. Mais c'est grave. S'il n'y a plus que les écrits qui ne sont plus proclamés, qui ne disent plus que la bonté de l'Éternel remplit toute la terre, parce qu'on se fait avoir, parce qu'il se passe, c'est vrai que c'est pas beau, c'est vrai qu'il y a des choses difficiles, mais nous devons être cette nation, ou plutôt ce peuple de l'Éternel, cette nation en même temps, oui, amen, remplie de la connaissance de l'Éternel pour dire que les bontés de l'Éternel demeurent toujours et remplissent toute la terre. Moi, je vais être animé de cet esprit de vie pour proclamer ces choses. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Et je le dis devant les puissances, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Je ne veux pas fléchir le genou devant le massacre du diable. Nous sommes là pour proclamer ces choses, bien-aimés, que l'Église proclame ces choses. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, amen, parce que c'est une parole créatrice. Que veux-tu que je te fasse aujourd'hui? Rien n'est impossible à l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Si tu doutes, je t'invite ce soir, je ne sais pas s'il y aura les étoiles, peut-être, j'espère, s'il n'y a pas un ciel couvert, enfin voilà. Tu regardes un moment les étoiles, tu regardes les... Est-ce que c'est encore comme ça que tu regardes le ciel? C'est déjà vu, quoi. Ouais. On ne se rend pas compte, les amis, ce qui se passe. Quand on parle d'années-lumière, 300 000 km par heure, par seconde, tu multiplies ça en minutes, en jours, en années, et tu as des distances, mais je suis tout petit. Je suis 1m73, je voulais faire 1m85. De si loin, il faut avoir un sacré télescope pour voir les 7 cm qui manquent. Ça, c'est mon échelle humaine. Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez et je ne me rends compte de rien. Il faut vraiment qu'il y ait une révélation extraordinaire de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'extraordinaire de Dieu qui vient jusqu'à moi, misérable. Que veux-tu que je te fasse? Moi qui ai créé les cieux et la terre avec une telle puissance, une telle intelligence, tout se tient, les scientifiques n'en reviennent pas, mais comment ça se fait que ça tient, que c'est comme ça coordonné, mais c'est extraordinaire. Je veux être bouche bée devant la création de l'Éternel. Toi qui par la parole as créé les cieux et la terre, un mot suffit, ça, tu fais toutes choses merveilleuses, Seigneur, j'ai envie de bafouer, je ne sais plus ce qu'il faut dire devant cette création, Seigneur. Tu es tellement extraordinaire, mais alors mon problème, Seigneur, je ne veux pas minimiser la souffrance, bien-aimé. Je ne suis pas en train de minimiser ta souffrance. Je suis simplement en train de te dire que le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui est absolument extraordinaire, peut tout pour toi. Il n'est pas limité. C'est l'Éternel. Même les cieux ne peuvent contenir sa gloire. L'Éternel a la puissance et l'autorité d'ordonner la guérison, d'ordonner la vie, d'ordonner la résurrection, d'ordonner tout ce que tu veux, parce que l'Éternel est Dieu, parce qu'il règne uniquement par sa parole. Et ce n'est pas réducteur. Ce n'est pas réducteur. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Tu te rends compte? Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met les réservoirs, les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi? Car il dit et la chose arrive. Alléluia! Que veux-tu que je te fasse? Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, elle anéantit le projet des peuples, etc. Et tout. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça a été dit ce matin dans l'introduction. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. On répète, recommande ton sort à l'Éternel, tout ce qui te touche, tout ce qui te fait mal, tout cela tu le déposes au pied de la croix, amen, tu le déposes devant l'Éternel, mets en lui ta confiance et alors il agira. Alors il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et une fois que tu as crié comme Bartimée, une fois que tu lui as dit ce qui se passe, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. À un moment donné, en gardant le silence devant Dieu, c'est le témoignage d'un cœur complètement en confiance devant l'Éternel pour n'espérer qu'en lui. Tu ne vas pas espérer en l'homme. L'homme ne va rien t'apporter. Nous, les pasteurs, un jour, et tu en as déjà certainement rendu compte, on va te décevoir. Ah, ça, c'est garanti, hein? Ça, c'est sûr. On va te décevoir. On fait tout ce qu'on peut, on essaye quand même un petit peu, mais on va te décevoir. Et pour nous, c'est frustrant, parce qu'on essaie de donner tout ce qu'on peut, on va encore décevoir. Confie-toi en Dieu seul. Oula. Lui qu'on était besoin. Bien sûr que l'Église peut aussi connaître tes besoins. Bien sûr que nous sommes là pour nous porter les uns les autres, pour nous supporter les uns les autres, dans le bon sens du terme, bien entendu, pour nous aimer les uns les autres, pour nous respecter les uns les autres, pour nous édifier les uns les autres. Oui, merci pour le corps de Christ. Mais avant tout, place ta confiance en l'Éternel et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. C'est lui, ce n'est pas les hommes. C'est lui, c'est son affaire. Que veux-tu que je te fasse? Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Oula, attention. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Peut-être que tu as voulu essayer de un petit peu organiser ton agenda pour essayer de... Attention. Des fois, on essaie par toutes les combines et c'est là qu'on entre dans les choses qui ne sont pas justes. Regarde, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Ce n'est pas ton affaire. Amen. Laisse l'Éternel agir dans ta vie. Luc 1, 37. Nous sommes dans le temps extraordinaire de la venue de Jésus, de la venue aussi de Jean-Baptiste. Et pour montrer que ce sont des événements extraordinaires, pour montrer que c'est des événements absolument extraordinaires, Dieu a permis qu'une jeune fille vierge engendre la vie et la vie éternelle. Alors c'est vrai qu'on peut argumenter, on se dit, oula, comment c'est possible? Écoute, ça c'est l'affaire du Seigneur. Et je voudrais vraiment attirer ton attention aujourd'hui sur le fait qu'il est même dit à Marie concernant Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. En sa vieillesse pour montrer que ce n'est pas possible humainement parlant à celle qui était appelée stérile. En plus, stérile, âgée, c'est la totale, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle est dans son sixième mois. Pourquoi? Il n'y a qu'une réponse. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Que veux-tu que je te fasse?